Lambert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Radio Capi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'échange citoyen. Parole aux auditeurs. La journée mondiale de l'habitat est célébrée le premier lundi de chaque mois d'octobre. Et pour cette année 2023, cette journée a été célébrée le 2 octobre dernier avec comme thème économie urbaine résiliente, les villes moteurs de la croissance et de la reprise. Dans son message à la nation à l'occasion de cette journée, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat a rappelé l'importance de cette journée qui donne la possibilité de réfléchir sur l'état de nos villes et la problématique de l'accès pour tous à un logement décent. Nul n'ignore qu'en RDC, malgré le boom immobilier, la plupart des Congolais n'ont ni toit ni installation sanitaire convenable, mais aussi la forte croissance urbaine observée en RDC n'est pas conforme non plus suite à des constructions anarchiques. Envie d'assainir le secteur de l'habitat, il a été créé en RDC le Fonds National pour l'Habitat avec entre autres comme mission de collecter des fonds destinés au financement des activités dans les secteurs de l'habitat, de financer la construction par l'état des logements à prix abordable chaque année et de promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine de l'habitat. Que pensez-vous du secteur de l'habitat en RDC? Que faire pour relever les défis afin de réaliser ce rêve d'accorder un logement décent à tous les Congolais? Merci à tous ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Merci également à ceux qui continuent à réagir. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous appeler au 081 890 63 30 ou 081 890 49 69. Billy Landry Betou est à la mise en œuvre de ce magazine. Blaise Chindani assure la réalisation et la coordination au micro. C'est Marcel Ngomombala à toutes et à tous. Et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs, votre magazine des champs citoyens.
Les 42 502, c'est Radio Capi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42 502. 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. Différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doublée au 323. Le 42 502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502. 42 502. Uniquement pour les abonnés Vodacom.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Merci d'écouter Radio Capi, la fréquence de la paix. Encore une fois, merci à tous ceux, toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Parole aux auditeurs, à ceux qui se sont déjà aussi inscrits pour intervenir à, par rapport à ces sujets. On va parler de la journée mondiale de l'habitat qui a été célébrée le 2 octobre dernier. Cette journée mondiale est célébrée les premiers lundis de chaque mois d'octobre et pour cette année 2023. C'était le 2 octobre dernier avec comme thème économie urbaine résiliente, les villes moteurs de la croissance et de la reprise. Et dans son message à la nation à l'occasion de cette journée, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, rappelait l'importance de cette journée qui donne la possibilité de réfléchir sur l'état de nos villes et la problématique de l'accès pour tous à un logement décent. Et nul n'ignore qu'en RDC, malgré les booms immobiliers, la plupart des Congolais n'ont ni toit ni installation sanitaire convenable, mais aussi il y a la forte croissance urbaine observée en RDC qui n'est pas conforme aux normes suite à des constructions anarchiques et envie d'assainir le secteur de l'habitat. Il a été créé en RDC, le Fonds National pour l'Habitat, avec entre autres comme mission de collecter des fonds destinés au financement des activités dans les secteurs de l'habitat et de financer la construction par l'État des logements à prix abordable chaque année et de promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine de l'habitat. Et pour commenter ces sujets, nous avons en ligne Madame Pascaline Zamunda, directeur général adjoint du Fonds National pour Habitat. Nous avons également des auditeurs qui se sont déjà inscrits et qui sont prêts à réagir. Nous avons Roger Marcel qui a appelé pour réagir depuis Kinshasa. Il y aura également Franck depuis Vienne, aussi Peter Mabudi qui est ici à Kinshasa. Et je rappelle le numéro si vous êtes intéressé, vous voulez réagir. Vous pouvez donc nous appeler au 081 890 63 30 ou 081 890 69 49-69, mais avant d'accorder la parole à nos auditeurs, je vais lire quelques réactions sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Il y a par exemple cette réaction de Laurent Mignon. Depuis Kinshasa, nous saluons la commémoration de cette journée dédiée à l'habitat mondial, mais en RDC, le débat reste houleux, palpitant au regard de ce que nous voyons sur le terrain. Ça laisse croire qu'au Congo, l'habitat reste une casserole que l'on n'a jamais utilisée jusque-là. Kinshasa, c'est de l'enfer sur le terrain. Les gens vivent dans des bicoques, des maisonnettes, et c'est pas normal. Allez-y à Pakajuma, voyez les maisons où les gens dorment. Allez-y à Ngalima, Upen, les gens vivent dans des maisons en tôle. Et je pense que des cas font les gens à travers le pays. Ça, c'est la réaction de Laura Mignon depuis Kinshasa. Une autre réaction, c'est celle de Guy Kambouyi, qui nous a écrit ceci. C'est juste des illusions lorsqu'il n'y a pas de volonté politique. Ces secteurs fragiles aux yeux de l'homme politique congolais ne va pas changer. Donc voilà, lui, il pense que c'est une illusion. C'est vrai qu'il faut chercher à accorder aux Congolais un logement décent. Il y a par exemple ce Fonds national pour l'habitat qui a été créé justement pour voir dans quelle mesure collecter des fonds destinés au financement des activités dans les secteurs de l'habitat et de financer la construction par l'État des logements à prix abordable chaque année et de promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine de l'habitat. On fait signe que Madame Pascaline Zamunda est cette fois-ci bel et bien en ligne. Bonjour Madame Pascaline Zamunda.
Bonjour Monsieur Marcel.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur général adjoint du Fonds national pour l'habitat. Et comme on vient de le dire, ce fonds a été créé avec, entre autres, comme mission de collecter les fonds destinés au financement des activités dans les secteurs de l'habitat et de financer la construction par l'État des logements à prix abordable chaque année et de promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine de l'habitat. Alors, on va se dire, madame, que c'est pas la première fois que dans ce pays on a une structure qui est là pour promouvoir l'habitat. On a connu des structures comme la CNL qui était une caisse nationale de logement. Il y avait également l'ONEL qui était l'office national de logement. Mais avec les temps, ces offices n'ont pas pu. C'est vrai, à un moment, ils ont commencé à fonctionner, mais avec les temps, ça a disparu. Et puis, il y a eu ce boom immobilier dans la plupart des centres urbains. Mais la réalité est celle-là. Les Congolais, en tout cas pour la plupart, n'ont pas de logement décent. Et comment vous comptez relever ces défis, en tout cas de faire en sorte que le Congolais puisse vivre dans des conditions tout de même convenables avec des logements décents?
Exactement, Marcel. Comme vous le dites, ce n'est pas un défi simple réellement. Donc, ce n'est pas un défi négligeable. Et c'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, au regard de ces missions, comme vous avez vu, vraiment, c'est un programme ambitieux de fonds, de FONAP, et toutes les batteries sont mises en marche, en tout cas, au niveau du ministère et au niveau de tous les gouvernements d'ailleurs, à travers l'appel des chefs de l'État qui considèrent que ce secteur est un secteur vital. On ne peut pas se passer de ces besoins de logements. D'ailleurs, je crois que c'est là que vous avez vu que les autres... ça a existé depuis le temps, et puis après, les défis peut-être ont fait, ce qui ça ne tient pas. Mais c'est un besoin existentiel. On ne peut pas s'en passer, malgré que ça reste un défi majeur. Et nous, on est là et on espère, à travers l'émission, à travers la détermination, et aussi une vraie mobilisation des ressources, on pourra y arriver dans les temps.
Vous avez épinglé les points le plus capital, c'est la mobilisation de ressources. Et là, parmi les missions, parmi en tout cas une des missions assignées, au FONAP, c'est de collecter les fonds destinés au financement des activités dans les secteurs de l'habitat. Et comment comptez-vous, comment faire pour collecter ces fonds? Vous avez déjà une stratégie à mettre en œuvre pour collecter ces fonds?
Oui, il y a plusieurs stratégies, et la stratégie, comme vous le savez, elle doit être définie à court, à moyen et à long terme, mais aussi avec une ouverture vers différentes parties prenantes. Mais vous savez, nous sommes une structure de l'État, donc l'État va nous doter des ressources nécessaires, mais aussi cette ouverture vers d'autres partenaires qui, eux, ils cherchent à investir dans les secteurs et en contrepartie à avoir quelques avantages, notamment accès à ces secteurs au niveau du pays. Donc la stratégie est en train d'être mise en place, mais en même temps, les démarches pour avancer et pour commencer à faire quelque chose de manière concrète, elle est déjà effective. Allô?
Vous êtes toujours en ligne, c'est bon, madame, allez-y, oui.
Oui. Oui, donc c'est ce que j'étais en train de dire. Je veux dire, on ne peut pas dire que la stratégie pour relever ces défis de manière globale, elle est déjà là, mais elle est en même temps en construction parce que, comme vous le savez, on est en train déjà d'évaluer les besoins, surtout le niveau qui n'est pas facile. Vous savez, le besoin en termes d'unités de logement est estimé à 4 millions. Et ça, c'est juste une estimation pour toute la République et je pense que c'est une estimation qui est en deçà du besoin réel. Depuis des décennies, la RDC est restée sans un programme sérieux de la part du gouvernement pour relever ces défis dans le secteur du logement. Donc, le défi doit être au-delà des 4 millions de logements tels qu'ils étaient estimés en 2018. Mais aussi, les besoins continuent à s'accroître, vous avez vous-même évoqué, parce qu'il y a d'autres facteurs qui influent sur le secteur du logement. Aujourd'hui, on a les changements climatiques, on a la démographie elle-même. Donc, les pays font face en même temps à plusieurs facteurs à la fois, bien que les besoins restent réels. Alors, la mobilisation des ressources, comme nous sommes un fonds, reste notre pilier pour nous permettre de réaliser notre vision. Et c'est pour cela que ça demande une stratégie bien ficelée et sur laquelle nous sommes en train de nous atteler pour pouvoir avoir une stratégie forte nous permettant de mobiliser les ressources, que ce soit sur le plan du gouvernement, donc sur le plan de l'État au niveau national, que ce soit sur le plan du partenariat public et privé, et sur le plan même de mobiliser des subventions avec d'autres partenaires techniques et financiers qui interviennent dans ces domaines du foncier et du logement.
Voilà, on vous garde encore en ligne, madame Pascaline Zamunda, on revient à vous. Il est temps pour nous de nous tourner vers le standard et d'accorder la parole à des auditeurs qui sont déjà en ligne. Il y a Roger Marcel qui est à Kinshasa, Franck qui est à Vienne et puis Peter Maboudi qui est également à Kinshasa. Je rappelle, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine d'échange citoyen. Nous sommes en train de parler de cette problématique de l'accès pour tous à un logement décent. Comme vous le savez, le 2 octobre dernier, c'était la célébration de la journée mondiale de l'habitat. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro d'appel, c'est le 081-890-6330 ou le 081-890-4969.
Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42-502. 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. Différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et banane doublée au 323. Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502. 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Roger Marcel nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour Roger Marcel.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole.
Monsieur Marcel, je suis beaucoup flatté pour la thématique du jour. Vous savez bien que dans notre pays, le ministère de l'Urbanisme et Habitat pose vraiment un grave problème. Aujourd'hui, si vous regardez la ville de Kinshasa, qui était vraiment habilité, qui pouvait recevoir quand même plus de 1 million de gens, mais aujourd'hui, nous comptons plus de 15 millions d'habitants, ce qui pose vraiment un grand problème. Regardez aujourd'hui au niveau des logements. Vous allez voir même dans des points où la plupart des gens sont vraiment concentrés. On a 26 communes. Dans les 26 communes, là, vous allez voir, il y a des communes où les gens ne sont plus beaucoup concentrés. Mais quand vous partez même dans des endroits où, comme la ville, comme de Barumbu, Kinshasa et les autres communes, là, vous allez voir le nombre de gens sont beaucoup concentrés. Et puis si vous regardez même dans des parcelles où il n'y a pas vraiment de bonnes toilettes à utiliser, il y a vraiment beaucoup de salubrité. Moi, je demande vraiment, s'il y avait vraiment notre ministre, il prend vraiment ces choses-là au sérieux. Parce qu'on a quand même le ministère de l'aménagement du territoire, on a le ministère des Affaires côtières, où chaque année, on célèbre toujours des journées, comme on dit, comme j'ai lu un peu le sujet, on dit c'est une journée de réflexion. Une journée de réflexion. Je ne sais pas si on réfléchit comment. Parce que, regardez, aujourd'hui, comme la ville de Kinshasa, il y a vraiment la pluie. Donc, c'est l'abondance où il y a vraiment de l'eau partout, où on compte vraiment des morts. Je me demande vraiment à ce secteur, vraiment, ça pose vraiment de grands problèmes. Si le ministre, quand même, pouvait organiser.
Roger Marcel, justement, par rapport à cette problématique, dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour assainir le secteur de l'habitat, elle a été créée en RDC, le Fonds national pour l'habitat, nous l'avons dit. Ce fonds a, entre autres commissions, de collecter les fonds destinés au financement des activités dans le secteur de l'habitat et de financer la construction de l'État par l'État des logements à prix abordable chaque année. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une bonne initiative. Vous avez dit quand même le chef de l'État, au début de son mandat, on avait prévu qu'on pouvait faire quand même créer de maisons préfabriquées, mais avec les programmes de 100 jours. Si vous regardez aujourd'hui avec ces programmes-là, on est où? Parce que c'est chaque année quand les ministres arrivent, ils viennent avec ces initiatives, mais avec les initiatives que le ministre lui-même impose, c'est quelque chose qui ne marche pas, qui crée toujours des problèmes. Récolter quand même des recettes, c'est pas mauvais. Peut-être si on dit que diriger, c'est prévoir. Si aujourd'hui, peut-être, on peut prévoir pour les années 2030 et 2035. Parce que du jour au jour, il y a une population qui augmente. Si quand même on prévoit quelque chose pour l'avenir, je pense que ce n'est pas mauvais, monsieur Marcel.
Voilà. Merci, Roger Marcel, d'avoir appelé depuis Kinshasa. On reste à Kinshasa pour accorder la parole à Peter Maboudi. Bonjour, Peter Maboudi.
Bonjour Marcel, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les autres de la radio Okapi.
On vous écoute, Peter Maboudi.
Merci Monsieur Marcel pour m'avoir associé à cet échange. Je crois que octroyer un logement décent à ses compatriotes, c'est l'une des obligations constitutionnelles. Je crois que c'est une disposition qui est prévue dans notre constitution où tout Congolais a droit à un habitat décent pour son bien-être. Monsieur Marcel, le constat est amer à travers le pays et surtout nous qui avons eu la chance des fois de visiter la capitale qui devrait refléter l'image générale du pays. Mais ce que nous constatons dans la capitale, des constructions anarchiques et des maisons en sol où les gens y habitent et dans des quartiers où normalement les gens ne devraient pas habiter. Et quand déjà l'image de la capitale est ainsi, je crois que même dans les provinces, c'est la même réalité que nous avons dans notre pays. Selon les constats faits, qui est amer, nous avions pensé à notre niveau que pour la capitale et l'ensemble d'ailleurs des grandes villes que nous avons dans notre pays, si on avait un parlement qui est réfléchi autour de ce genre de questions, on devrait voter une loi limitant les mesures d'une parcelle dans notre pays, et également aussi interdisant le morcellement parcellaire, ce qui est habituellement ici à Kinshasa, où une parcelle de 24 mètres, vous verrez que cette parcelle est morcellée à 6-7 par demi-parcelle. Et les gens y achètent, et quand ils habitent, ça crée une promiscuité dans des parcelles qui, majoritairement, les gens qui sont à Kinshasa sont des locataires, et ça compromet généralement à un habitat décent aux compatriotes qui vivent d'abord ici dans la capitale. Également à l'intérieur, quand bien même à l'intérieur, il y a plusieurs mécanismes de construction des habitats, des individus, de manière particulière. Je suis prié d'ajouter, partant des programmes de 100 jours, où le président qui est en fonction avait prévu les logements sociaux d'abord pour les militaires. 1000 maisons fabriquées. Et aujourd'hui, 4 ans durant, c'est à quel niveau? Si d'abord pour les militaires, et également pour les fonctionnaires même de l'État. Vous allez constater avec moi, M. Marcel, que même les services de l'État œuvrent dans des conditions inhumaines. Et heureusement, nous encourageons le programme de 145 territoires qui a pensé justement résoudre un petit problème d'habitat, d'abord pour l'État lui-même qui, aujourd'hui, l'État demeure locataire, même des particuliers dans plusieurs domaines de l'État. Donc, c'est un problème très particulier qu'il fallait une attention soutenue et une loi. D'abord, je parle d'une loi au niveau de l'Assemblée nationale qui devrait limiter avec des mesures restrictives concernant la limitation d'une parcelle, concernant le non-morcellement des parcelles dans des grandes villes, et également aussi l'autorisation préalable avant la construction d'une maison par un Congolais au niveau des grandes villes. Si on a une loi comme ça contraignant nos compatriotes à ne pas construire anarchiquement, et également aussi dans cette loi, la construction qui doit préalablement avoir l'avis d'un ingénieur. Si nous avons des constructions anarchiques, c'est parce que tout le monde recourt à n'importe qui, des maçonneries, de tout ça, justement pour avoir un abri. Mais de quelle qualité?
Donc,
si on avait une loi dans ce sens-là, quel que soit le fond qu'on a créé, M. Marcel, je crois que ça pourra poser trop de problèmes si on n'a pas une loi.
Donc d'après vous, Peter Maboudi, s'il vous plaît, donc, d'après vous, c'est vrai, il y a des efforts qui sont entrepris, notamment dans ces secteurs de l'habitat. Il faut parler, par exemple, à moins que ma mémoire ne me trahisse, hein, mais s'il faut parler de ce qui est des logements pour les militaires, je sais qu'il y a déjà quelques logements qui ont été construits des militaires. Je pense bien au camp Tchatch, il y a déjà des efforts par rapport à cela, mais il y a aussi, comme nous l'avons dit, c'est Fonds National pour l'Habitat qui vient d'être créé. Mais le grand problème que vous soulevez, il faut qu'il y ait de loi autour de ces secteurs pour lutter contre, par exemple, les constructions anarchiques. Mais également, il y a cet aspect très important. L'État doit être présent dans tout ce qui est lié à la construction des logements, et c'est l'une des missions dévolues au Fonds National pour l'Habitat, c'est-à-dire de financer la construction par l'État des logements à prix abordable. Mais simplement, comme l'État n'est pas présent pour ce qui est de la construction des logements, les gens construisent comme ils veulent.
Absolument, M. Marcel. Également, comme bien même les citoyens veulent avoir un espace pour habiter, c'est le service même de l'État qui octroie des titres de propriété. Mais il le donne le titre là sans pour autant faire une descente sur terrain pour voir dans quel quartier, dans quelles conditions les compatriotes ont acquis ces terrains. Et ça répond aux normes même si on lui donnait des documents. Quand on donne des documents de ce genre seulement au bureau, je crois que ça crée des problèmes. Donc ça également, le fonds qui est créé, oui, nous saluons la création des fonds. Mais M. Marcel, nous avons plusieurs impôts et taxes qui sont dans notre pays. Le problème majeur, c'est la gestion de ces fonds et la canalisation même de ces fonds dans le but pour lequel le fonds a été créé. C'est ça le plus grand problème. Le fonds a été créé, depuis que le fonds a été créé, déjà combien de maisons, de logements qu'on a déjà octroyés aux Congolais. Si d'ailleurs l'État lui-même demeure locataire, comment on peut envisager avoir des logements pour les citoyens? Et dans quel espace? Les espaces même qui sont là, ce sont les mêmes les autorités qui veulent toujours avoir des concessions. Pourtant, ce sont des concessions qui devraient d'ailleurs avoir une projection de villes, construction de cités par l'État et allant dans le sens de ce que vous avez appelé mettre à la disposition des citoyens. Ça s'appelle le contrat de bail. Donc, s'il y avait ce contrat de bail entre l'État et ses citoyens, ça pouvait vraiment résoudre un problème et que l'État lui-même puisse s'impliquer dans l'octroi des documents et également aussi limiter le nombre de mesures pour une parcelle qui répond aux normes.
Voilà, merci.
Kinshasa, je vois que le morcellement crée des problèmes démographiques et également aussi de la promiscuité de nos populations.
Voilà, merci Peter Maboudi d'avoir réagi depuis Kinshasa. On va aller au-delà de nos frontières, plus précisément à Vienne en Autriche, pour accorder la parole à Franck. Bonjour Franck.
Bonjour à vous, notre ami Marcel. Bonjour à tous les vos collègues au studio, à tous les fidèles auditeurs de la radio Okapi et aussi à votre invité du jour. Ça nous fait du bien d'avoir des voix féminines quelquefois comme invité. Merci également pour le choix de cette thématique vraiment cruciale pour plus de 65% des citoyens congolais.
On vous écoute. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce sujet? Parce qu'on le sait, chaque premier lundi de chaque mois d'octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat. Et pour cette année 2023, cette journée a été célébrée le 2 octobre dernier. Et le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, rappelait l'importance de cette journée qui donne la possibilité de réfléchir sur l'état de nos villes et la problématique de l'accès pour tous à un logement décent. Et vous l'avez dit, nous l'avons dit, vous l'avez aussi rappelé, il y a un boom immobilier, mais de nombreux Congolais, en tout cas une grande majorité des Congolais, n'ont pas accès à un logement décent. Et pour faire face à cette situation, il a été créé en le fonds national ici au pays, le Fonds national pour l'habitat, qui a pour les missions dévolues à ce fonds, il y a par exemple la collecte de fonds destinés au financement des activités dans le secteur de l'habitat et surtout le financement de constructions par l'État, de la construction par l'État des logements à prix abordable chaque année. Comment commentez-vous à tous ces défis, notamment pour ce qui est du Fonds national pour l'habitat?
Oui, merci beaucoup pour la confiance et pour l'espace d'expression que vous nous accordez. Mon intervention ma contribution sera cadrée en deux aspects. Au premier, c'est une description de conditionnalité dans lequel sont logés ou arrivent à être logés les compatriotes congolais. Je vais passer aussi à évoquer quelquefois les gymnastiques que certains Congolais font derrière les bailleurs et les commissionnaires. On va frôler les constructions anarchiques et aussi arriver à émettre un point de vue par rapport à la thématique telle que vous l'avez postée. Oui. Parmi les missions et attributions régaliennes, pour chaque État qui se sait redevable en face de ses citoyens, comme mon cher compatriote Peter Maboudi venait de le rappeler, il y a aussi cette contrainte de pourvoir au logement décent de ses citoyens et aussi de pourvoir à ce que chaque citoyen puisse être logé dans des conditions minimales au moins respectables et acceptables. Et cela est repris sur l'un des articles de notre Constitution. Seulement, au regard de toutes les réalités et conditions dans lesquelles la plupart de nos compatriotes sont logés ou arrivent à être logés, vraiment, toute honnêteté, on cesse de se poser des questions si notre ministère national d'urbanisme et habitat s'acquitte convenablement de cette tâche. L'on cesse de se demander si ce ministère existe et fonctionne convenablement ou s'il y a une certaine vision de gestion moyennant des planifications et projections au regard de l'aspect démographique de la République démocratique du Congo au niveau de ses ressorts. Et en dehors de tout ce qui se constate ou de tout ce qui peut se dire, on est encore loin d'être satisfait car dans nos villes, dans nos cités et autres centres urbains, dans nos villages, dans nos localités, plus de 50% des Congolais, je crois jusqu'à 60-65, logent encore dans des conditions parfois infrahumaines. Et sur base de ce qui se constate, à part les quelques maisons d'État construites pendant l'époque coloniale, 63 ans après, on commence à penser peut-être maintenant à construire. Mais même là aussi, mon ami Marcel, on parle de construction, mais il faut voir ces constructions-là. On parle du boom immobilier, mais cela se soumet à quelles normes? Parce que dans certains pays, dans certaines villes, là où les choses marchent normalement, avant de construire, il y a quand même des préalables à remplir. Donc, on doit d'abord obtenir l'autorisation. Ça se donne aussi chez nous. On dépose un plan de construction qui doit être étudié par les architectes, par les ingénieurs topographes et tout le monde, c'est après seulement qu'on peut donner l'aval pour construire dans tel endroit. Et dans la plupart des cas, là où les choses marchent, il y a un plan, et en dehors de ce plan-là, on ne peut pas faire autre chose. Mais ce qui se constate chez nous, on se rend compte que les gens construisent, oui, mais chacun construit à son aise. Et pour l'esthétique d'une ville, pour la beauté d'une ville, c'est l'architecture qui doit d'abord arriver à captiver la vue des passants. C'est comme ça qu'il y a des villes essentiellement touristiques parce que l'architecture de cette ville, l'architecture de cette cité arrive à captiver l'attention de ceux qui viennent. Si nous devons parler des conditions dans lesquelles certaines maisons sont accordées comme loyer, mais mon ami Marcel, là, il faut aussi éviter et évoquer, s'il vous plaît, les gymnastiques dans lesquelles sont soumises, nos compatriotes congolais mais avec les sauts d'humeur, tantôt derrière les bailleurs,
Franck,
tantôt derrière les commissionnaires.
Franck, oui. Franck, s'il vous plaît, en fait, le grand problème aujourd'hui, et c'est ça vraiment l'intérêt de ce sujet, vous avez parlé des conditions dans lesquelles les gens construisent comme ils veulent, et alors qu'il y a des autorisations de bâtir, on le sait, qu'il n'y a pas un contrôle rigoureux pour savoir si les gens construisent en respectant le projet de construction qu'ils ont présenté avant d'avoir l'autorisation de bâtir. Mais le grand problème qu'on se pose aujourd'hui, c'est le fait que l'État n'était plus présent dans le secteur de logement, des constructions de logement. Vous savez, à l'époque, il y avait des cités qui ont été construites, comme des cités comme la cité Salongo. Il y avait aussi la cité Maman Mobutu. Il y avait des normes. Aujourd'hui, nous essayons de voir avec la mise en place de ce fonds national pour l'habitat. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une des solutions pour résoudre les désordres qu'il y a dans les secteurs de logement, c'est-à-dire avoir des logements décents?
Oui, je vais en venir, s'il vous plaît, Marcel. Je crois que c'est là où on doit chuter. Parce que on venait de le rappeler que parmi les contraintes, les missions régaliennes de chaque état de ce monde qui se sait redevable en face de ses citoyens, il y a aussi cette contrainte de pourvoir au bon logement ou à pourvoir à ce que chaque citoyen puisse être logé dans de très bonnes conditions. Mais dès lors que l'État se désengage par rapport à cette contrainte, on retombe au niveau de la conception de la jungle. Donc c'est les chacun pour soi, chacun fait ce qu'il peut. Et ce qui pose des problèmes chez nous, c'est le fait que parfois il y a de très bonnes intentions, il y a de très bonnes initiatives, on peut les annoncer, on peut les débattre sur vos ondes, mais quelques années après, il n'y aura pas de suivi. Donc, il y a autant de projets. Peter Maboudi a évoqué ce qui avait été énoncé avec dans le projet des 100 jours. Mais si nous devons encore aller plus loin, avant l'arrivée de l'actuel président au pouvoir, le régime de Kabila avait aussi planifié la construction de logements sociaux. Où en est-on? On n'en parle plus, on nous dit des choses, on débat, on fait des suggestions, mais après, il n'y a pas de matérialisation sur place. Donc, pour dire que l'initiative en soi est bonne, mais il faut que l'État s'assume d'abord, parce que quand l'État ne sait pas s'assumer, c'est là où ça pose autant de problèmes. Donc, on peut énoncer, oui, on peut dire, il y a ces projets-là, on doit applaudir, on doit encourager. Mais la suite, ça serait comment? Parce que nous, de plus en plus, moi, j'évite qu'on analyse seulement des sujets pour être consommés, mais après, il n'y a pas de matérialisation, c'est pas effectif. Donc, le projet en soi est très bon, mais il faut encore des préalables au niveau de l'organisation de l'État. Il faut aussi qu'il y ait des justices sociales. Il faut que ça soit réparti convenablement. Parce que quand on doit maintenant construire des logements sociaux, qui ne profiterait qu'aux mêmes, les mêmes décideurs politiques qui mettent les pays à genoux? On construit 5000 logements à tel endroit, ils ont déjà pris tous les logements. Donc ça ne profite même pas aux pauvres citoyens. On construit, ce sont toujours les gens de la même catégorie, de la même classe qui se retrouvent. Et personnellement, je trouve que au lieu de s'arrêter seulement à annoncer un tel projet, on doit aussi rappeler qu'il faut allouer pour chaque citoyen un salaire convenable qui lui permettrait de prendre aussi un crédit pour construire. Parce que un logement décent ne peut pas se construire en une année. Un logement décent ne peut pas se construire en 6 mois. Ici, en Europe, on prend un crédit, on le paye en 20 ans, on le paye en 30 ans, on le paye en 15 ans, selon ce que vous gagnez le mois. Et ce crédit-là, la banque vous octroie un crédit, vous construisez dans des conditions respectable et vous avez une maison, vous payez continuellement petit à petit. Voilà. Mais pourquoi pas arriver à de telles suggestions techniques? Oui. Parce qu'on doit seulement dire on va récolter des fonds. On récoltera combien? Ça sera réparti comment? On va construire où? Parce que pour le moment, mon cher Marcel, les problèmes se posent partout. À part les quelques maisons construites par les colons, donc dans les chefs-lieux de nos provinces, dans nos secteurs, il y a un problème sérieux de logement, même des cadres administratifs, dans des camps militaires. Il faut seulement aller voir parfois dans des chefs-lieux de territoire, les maisons, les conditions dans lesquelles sont logés certains athées. Il faut aller voir dans certaines villes les conditions dans lesquelles sont logés des cadres comme des chefs de division, des directeurs, des chefs de bureau. Il faut parfois aller voir dans certaines villes les conditions dans lesquelles sont logés des magistrats, des officiers supérieurs de la police, de l'armée. Donc, les problèmes de logement, ça se pose énormément au Congo.
Voilà,
et de
merci.
Ce côté-là, il nous faut une vision en amont et en aval. Et on ne doit pas seulement s'arrêter au niveau des expressions. Puis, par rapport à ceux qui mettent leur maison en location, moi, je vois, parfois, ça m'étonne de voir que les contrats de bail se signent en cachette.
On pourra revenir plus tard. Mais justement, on pourra revenir par rapport au contrat. Justement, ça peut faire l'objet d'un sujet. Ça peut faire l'objet d'un sujet, Franck. Vous avez déjà dit des choses très, très intéressantes par rapport à ce que vous avez, par exemple, souligné une répartition équitable hein, lorsque ces logements seront vraiment construits plutôt que ce soit toujours les mêmes personnes qui puissent profiter, qui puissent avoir certains privilèges. En tout cas, pour l'instant, on s'arrête là avec vos Franck. Pour ce qui est du contrat du bail, on pourra y revenir prochainement. Dans une autre émission de votre magazine des champs citoyens par aux auditeurs. Merci Franck et bonne journée à Vienne. On revient à notre invitée, Madame Pascaline Zamunda, et comment vous réagissez par rapport aux interventions des uns et des autres.
Oui, Marcel, je réalise juste l'ampleur du défi et je partage totalement leurs avis. Et il faut qu'ils soient rassurés que je suis aussi congolaise. Et d'ailleurs, les chefs de l'État et tous les acteurs du gouvernement qui sont impliqués dans les secteurs. Et je crois que en les écoutant, ils relèvent les défis qui sont assez transversaux et qui concerneraient plusieurs ministères, par exemple, qui doivent travailler ensemble. Mais pour ce qui concerne notre fonds, parce que je suis là pour parler par rapport à ça, je sais qu'ils ont relevé plusieurs questions qui nécessitent un suivi réel. Mais le fonds voudrait travailler dans ce qui est durable, dans une dimension vraiment durable. D'ailleurs, comme même le monsieur des derniers invités
l'a
soulevé, que pour avoir un crédit au logement, à l'habitat, ça nécessite 10 ans, 15 ans, 20 ans. Nous, on ne va pas déroger à cette règle-là. Et cela montre même que ça demande des réflexions mûries. Mais on est plus au niveau des réflexions parce que le fonds existe bel et bien avec des missions bien définies. Mais on est maintenant au niveau de la matérialisation de la vision. Et pour le rassurer, je voulais lui dire qu'il y a déjà un cadre légal en matière foncière ou en matière de l'habitat en RDC. Et nous, on ne va pas en dehors, même des normes internationales qu'il a évoquées. Mais la question, c'est de nous aider à pouvoir aller vers cette vision-là parce qu'on va plus gagner en contribuant à ce qui existe ou bien à ce qui n'existe pas encore. Mais comme nous avons une vision, nous voulons aller vers cette réussite-là. Les trois d'ailleurs auditeurs se sont suivis, ils ont parlé des programmes, par exemple des 100 jours, des programmes des maisons qui ont été des maisons préfabriquées, tout ça montre comment est-ce que les chefs de l'État à travers le gouvernement voudraient répondre en même temps à un besoin pressant, mais un besoin qui demande vraiment assez et suffisamment des ressources et qui évoque plusieurs et qui appelle à plusieurs solutions à la fois. Aujourd'hui, à RDC ou dans chaque ville, il y a ces besoins-là, même des réhabilitations. Et c'est là que je voudrais dire que nous, on ne se limite pas seulement à construire, mais nous avons comme stratégie de réhabiliter, de parachever, parce qu'il y a parfois des projets qui ont commencé, mais qui n'ont pas abouti. Mais nous avons aussi cet objectif-là de parachever, par exemple, des projets, des cités qui ont commencé, mais qui ne sont pas arrivés à leur bout. Des réhabilités, il y a quelqu'un qui a évoqué, il faut aller voir les maisons des administrateurs des territoires. Par exemple, il y a là sur la table, nous avons un projet qui figurait dans le programme de la Banque mondiale PDU et qui a fait des études pour 5 villes aussi au niveau de la République démocratique du Congo. Je crois qu'il s'agit des villes de Bukavu et Goma, Matadi, je crois Kikwit et d'autres villes, si je vais me rappeler. Et il y a déjà des plans pour ces villes-là. Nous cherchons maintenant des financements pour voir si réellement on peut arriver à concrétiser ces plans de d'aménagement et ces plans de construction pour ces villes. Donc, il y a des efforts qui sont fournis, et même au niveau du ministère d'ailleurs, et au niveau de tout le gouvernement pour pouvoir résoudre cette question. Maintenant, là, c'est la saison de pluie qui commence, et tout le monde se pose la question, parce qu'il va y avoir encore des drames avec les inondations et tout le reste. Mais on ne peut pas directement, dans 6 mois, comme lui-même il l'a évoqué, construire, avoir des terrains aménagés, réunir les ressources et les faire. Donc, ce sont des projets à long terme et qui demandent suffisamment de moyens, suffisamment d'efforts. Et c'est sur ça que nous nous mettons. Il demande quelque chose de concret. Effectivement, on ne peut pas lui offrir quelque chose, on ne peut pas lui offrir des logements sociaux maintenant, parce que nous venons d'être être établis, être nommés il y a quelques mois, depuis le mois de mai, à la fin du mois de mai. Mais nous avons toute la volonté qu'il soit rassuré. Nous avons toute la volonté. Nous avons aussi les ressources intellectuelles nécessaires. Et nous sommes maintenant en train de nous atteler pour réunir toutes les autres ressources, notamment les ressources matérielles et financières, pour avancer vers cet objectif qui est noble et qui nous concerne tous. Donc, il n'y a pas nous qui sommes dans un camp et les Congolais dans un autre camp. Nous sommes tous des Congolais, nous sommes tous épris de ces sentiments-là, de relever ces défis, parce qu'il en va de notre économie, il en va de la santé même des Congolais, il en va de la survie du peuple congolais.
Alors, vous avez évoqué ces mots, parce que bien souvent, lorsque dans ce magazine, en tout cas pour la plupart d'intervenants, ils reviennent toujours sur ce mot clé, la volonté. On a un problème de volonté ici dans ce qu'on fait. Et vous avez dit, madame Pascal Zamunda, vous avez cette volonté. Mais Franck a également évoqué cet aspect sur la répartition équitable, parce que c'est ce qui se passe souvent dans ces pays, c'est qu'on déplore lorsque il y a des tels projets ambitieux et une fois que c'est matérialisé. Et c'est souvent la répartition qui pose problème. Il y a ceux qui estiment qu'ils doivent avoir des privilèges partout. Alors plutôt que ces logements, dans un premier temps, qu'on essaie de réfléchir, qui peuvent être d'abord concernés par ces logements, et ce sont les mêmes personnes qui ont souvent des privilèges, qu'on va retrouver en train de s'accaparer en tout cas même la moitié des logements. Et là également, c'est la crainte qu'a évoqué Franck sur la répartition équitable. Et vous pensez également de ce côté-là, il y a lieu de que la population vous fasse confiance.
Oui, naturellement, parce que sinon on n'aurait pas résolu le problème. Ici, moi, je me dis toujours que dans les secteurs de l'habitat ou du foncier, s'il faut parler en termes de logement, il y a des propositions faites par des privés. Il y a des logements qui sont proposés. Mais ici, les problèmes se posent au niveau de l'intervention de l'État, la part de l'État. Et moi, je crois que quand il revient à l'État de faire quelque chose, c'est la grande part. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes en train de vouloir relever un défi en tenant compte du pouvoir d'achat du Congolais, en tenant compte de tous citoyens congolais. Ça veut dire de toutes les catégories. Et c'est ça même qui rend la tâche difficile, parce que nous devons faire avec les réalités qui sont sur le terrain. Et effectivement, on ne peut pas construire des logements sociaux et commencer encore à choisir qui va telle personne ou se le faire de telle. Ça veut dire qu'on n'aura pas résolu le problème. Et si on fait suffisamment de logements sociaux, ça veut dire que tout Congolais sera éligible selon les critères effectivement qui seront définis. Parce qu'il faut dire que ça ne sera pas aussi des logements gratuits. On dit que ce sont des logements abordables et des logements décents. Des logements abordables, ça veut dire que ça peut permettre à tous les citoyens congolais, selon ses moyens et selon ses ressources, à pouvoir y souscrire. Et l'essentiel ici, c'est que ce soit des logements qui répondent aux normes et que ce soit des logements qui permettent aux Congolais de vivre décemment. Donc, ça ne sera pas question, les critères ne seront pas subjectifs, ça veut dire s'il est les frais déceptifs, les critères ethniques, non. Les critères, c'est permettre à ce que le Congolais qui vit dans certaines conditions, par exemple, je vais dire pour le motard, par exemple, parce qu'il y a des pays aussi qui ont des programmes similaires ici en Afrique, et on est même en train d'aller vers ces pays pour des questions d'échange d'expérience, pour voir si on peut
on peut un peu se ressourcer à partir de leurs modèles et les adapter aussi à notre niveau, tel que le Sénégal, tel que le Nigeria. Nous sommes déjà en pour parler et pour voir comment est-ce que nous pouvons nous inspirer de leurs modèles, parce que eux ils ont pu faire, ça veut dire nous aussi on peut le faire.
Voilà, ça c'est déjà une très bonne chose, parce qu'on le dit toujours, on n'arrête pas de le répéter, quand ça marche ailleurs, pourquoi ça peut pas marcher chez nous ici en RDC, pourquoi il faut ne pas aussi s'inspirer des exemples d'autres pays africains qui ont réussi dans tel ou tel domaine. On revient à vous, madame Pascaline Zamunda, pour conclure. Le temps pour nous d'accorder la parole aux deux derniers auditeurs qui sont en ligne. Blaise Saïdi, qui est à Kisangani, et Patrick Odia, qui est à Lubumbashi. Bonjour, Blaise Saïdi.
Bonjour, monsieur Marcel. Bonjour, notre invité. Bonjour, chers auditeurs de la Radio de la Paix. Vraiment, monsieur Marcel, c'est un sujet trop pertinent, vu que nous sommes un vécu quotidien de la population congolaise. Cette situation, comme si nous sommes abandonnés par notre gouvernement à ce point, vu que notre gouvernement n'a pas la bonne politique à ce sujet. Non seulement la bonne politique, mais notre gouvernement manque vraiment la volonté, puisque le gouvernement ne manque pas les moyens.
Vous revenez encore sur la volonté. Donc c'est ça le problème chaque fois. Il y a la volonté, il faut la volonté politique, la volonté de servir son pays. C'est cette volonté-là. Et c'est ça le grand problème. Vous revenez encore sur cette volonté. J'espère vraiment que cette volonté finira par... tous les Congolais finiront par prendre conscience qu'il faut avoir cette volonté pour qu'on aille de l'avant. Allez-y, parce que j'ai fait juste un commentaire, pas vous êtes encore revenu sur la volonté. Allez, rapidement.
Oui, merci une fois de plus, M. Marcel.
Oui.
Donc, vous verrez que nous, aujourd'hui, comme si dans notre pays, il n'y a pas continuité de l'État. Comme s'il n'y a pas continuité de l'État. Puisque si M. Franck et de Vienne avait déjà souligné le cas des cinq chantiers, de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, donc il y a aussi le cas des saints. On ne connaît pas où en sommes-nous. C'est-à-dire, depuis que cette histoire est arrivée, on ne connaît pas, et la situation était uniquement ciblée pour la province des îles de Kinshasa. Oui, que non, partout, il y a toujours des provinces pilotes. Donc, imaginez, ici, chez moi, à Kisangani, on n'a même pas constaté de cette histoire de 100 jours. Donc, c'est un problème. Monsieur Marcel, vous verrez qu'aujourd'hui, ce sont les particuliers qui construisent des maisons à location. Et ils fixent le montant des loyers de leur manière. Imaginez lorsque le montant est fixé toujours en dollars. Et la plupart des gens qui louent les maisons sont des fonctionnaires. La plupart est des fonctionnaires. Et lorsque les fonctionnaires ils sont payés par la monnaie nationale, le congolais, et le frais de loyer, on paye en dollars. Imaginez déjà ça, puisque notre gouvernement n'a pas la mesure de fixer le montant, étant donné que non, c'est les biens privés. Donc c'est un problème. Dans notre pays, il y a d'autres ministères, c'est qui dit non.
Voilà. Merci Blaise. J'essaie de n'appeler assez de temps, mais on a compris. Donc vous saluez également ce projet de la création de ce Fonds national de l'habitat, parce qu'il faut que l'État soit également présent pour ce qui est de la construction des logements. Merci Blaise Saïdi d'avoir régi des pays qui s'en gagnent. On prend le tout dernier auditeur pour, en tout cas, pour le magazine Par aux auditeurs de séjour. C'est Patrick Odia depuis Lubumbashi. Bonjour Patrick.
Bonjour Marcel. Bonjour l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la Paix.
Je vous accorde deux minutes, Patrick, allez-y.
Dans deux minutes, je vais tout simplement rappeler les missions que s'était fixées le ministre Tshisekedi au travers certaines structures publiques qu'il avait créées ou qui ont été créées en 2018 également. La première mission, c'était de la mise en place d'un programme ambitieux de construction de logements sociaux avec une mission claire et le financement des 10 logements. La deuxième mission également qui s'était assignée en 2022, au mois d'octobre, les deux c'était pareil, journée également, c'était de l'opéralisation du Fonds national de l'habitat, mais aussi également de l'Agence congolaise pour la promotion immobilière, qui, selon Tshisekedi, ces deux établissements pouvaient concourir à faciliter l'accès à la propriété immobilière des travailleurs par leurs employeurs, des fonctionnaires également. Troisième des choses également, que ce mobile lui avait conclue comme mission, les gouvernements devaient mettre ou s'engager à faire des réformes et des mécanismes pour booster les secteurs financiers et les marchés immobiliers. Est-ce que à ces trois missions, le ministre au travers ici, le Fonds national de l'habitat, la dame qui est notre invitée, peut-elle nous faire l'idée, les bilans déjà relevés par rapport à ces trois missions? Marcel, s'il y a un grand problème dans ce pays, je ne voudrais pas ici emprunter le terme volonté également, mais c'est la réalisation de ce que nous avons mis dans le papier comme programme. Nous pouvons bien beau avoir le temps de réfléchir et autres, mais l'exécution du programme pose également problème également. Nous suggérons au ministre et à la dame présente que non seulement ils doivent parler théoriquement, mais aussi ils doivent chercher des bailleurs de fonds, engager les ingénieurs pour réfléchir afin de booster le développement. Rappelez-vous, les Congolais, Landa a besoin tout simplement de la nourriture, mais aussi d'un logement social dans lequel il pourra déposer sa tête le soir afin de s'apaiser. Et dès qu'on construit 3 maisons, 4 maisons à Kinshasa, et on essaie de voir les ministres, les députés, certaines stars, musiciennes et autres qui occuperaient cette maison. Est-ce que doit-on ou a-t-on répondu également à la question?
Voilà, Patrick. C'était ça la question qui a été posée à madame, parce que les Zambunda qui a également réagi. C'est bien aussi de le répéter. Cela laisse, on comprend donc, c'est si capital, hein, c'est cette répartition équitable et soutenable, mobilisation des fonds. Merci Patrick Odia d'avoir réagi depuis Lubumbashi. On va conclure avec notre invité. Alors madame Pascaline Zambunda, vous avez compris le préoccupation des uns des autres et vous avez également dit que vous êtes maintenant au niveau de la mobilisation des fonds, mais également il y a la volonté de faire en sorte que ce travail puisse satisfaire le Congolais.
Oui, effectivement. À cette question de la volonté, moi je me dis qu'on ne peut pas créer, mettre sur pied une structure si on n'a pas la volonté de la faire fonctionner, d'opérationnaliser, de l'amener à atteindre sa vision. Mais les défis est majeur. Je suis d'accord avec eux que quand on crée, moi je crois qu'eux aussi ils ont l'expérience de la création de certaines choses. C'est difficile d'assurer la viabilité d'une structure et encore moins une structure qui a aussi cette ampleur.
Oui.
C'est pas question de la volonté en tout cas, mais c'est question peut-être d'opérationnaliser, de réunir les ressources nécessaires. Et c'est comme ça qu'on a dit qu'il a existé d'autres structures dans le temps. Moi, je ne pense pas que c'était une question de volonté de les faire fonctionner, mais c'était une question d'aller vers la vision. Et c'est pour cela qu'on ne se fatigue pas. Nous, on se dit que la volonté est là et on est à pied d'œuvre. Nous espérons que cette fois-ci, ça devra marcher. Et nous comptons aussi sur l'accompagnement de tous les Congolais, même s'ils ne vont pas mettre la main. Mais déjà, le fait d'être optimiste et d'apporter leurs réflexions enrichissantes, ça pourra nous permettre à atteindre cette vue noble qui va nous aider, nous tous, à être logés dans des conditions vraiment abordables et décentes.
Merci beaucoup, madame Pascaline Zambunda. Nous rappelons que vous êtes directeur général adjoint du Fonds national pour l'habitat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère vous retrouver prochainement.
Merci, Marcel. Merci.
C'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro des paroles aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Billy Landry-Bétou qui est à la mise en nom d'Ablaye Chindani qui l'a coordonné, réalisé à la présentation. C'était Marcel Gomobala. Très bientôt pour un autre numéro de votre magazine des champs citoyens paroles aux auditeurs. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.